Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro de Geshe Farao. Cette semaine, Escale s'intéresse à l'eau. La décennie L'eau, source de vie qui vient de se terminer, visait à encourager les efforts pour assurer le respect des engagements internationaux pris dans le domaine hydrique et sur les questions relatives à l'eau d'ici 2015. Pour célébrer ces 10 ans, une rétrospective sous forme de photos et de témoignages est disponible au siège des Nations Unies. Évariste Kwasi Kwomlang, conseiller principal en eau et assainissement à UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, me guide dans cette exposition qui résume les progrès accomplis durant cette période.
Alors nous sommes ici dans le lobby des visiteurs où se trouve une exposition dédiée à la décennie de l'eau qui vient de se terminer. Et vous allez me servir de guide ?
Oui, merci beaucoup. Sur toute une première photo, vous allez voir une dame qui est en train de sourire. Elle est enseignante à l'école dans la République de Moldavie. Et puis, elle a dit depuis qu'ils ont des toilettes à l'école, les enfants viennent beaucoup plus à l'école qu'avant. Donc, il y a cette photo qui est très, très parlante. La photo qui suit, c'est au Nigeria. Ils ont fait l'approche communautaire pilotée par les ménages et qui a donné de très bons résultats. Et l'innovation qu'on voit au Nigeria, c'est qu'ils ont fait toute une couverture en dalle qui permet de fermer les latrines. Et donc ça, c'est une innovation qu'on peut observer au niveau du Nigeria. Tout en bas, vous allez voir un peu une famille très souriante et qui dit qu'avant, ils utilisaient les seaux d'eau pour pouvoir puiser de l'eau. Actuellement, ils ont des systèmes solaires qui permettent de distribuer l'eau dans toute la communauté. Et ils ont pu beaucoup sauver la vie humaine au sein de cette communauté-là.
Alors, en tant qu'expert de l'eau, est-ce que cette décennie dédiée à l'eau a aidé justement à améliorer la situation dans beaucoup de pays ?
Oui, on a eu des progrès notables en matière d'eau. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu accès à l'eau potable dans le monde entier. Mais le défi majeur qui se pose aujourd'hui, c'est que la plupart des systèmes ou bien des points d'eau installés ne sont pas totalement potables. Donc, il faut quand même que les ODD, qu'on appelle les Objectifs de Développement Durable qui viennent, puissent vraiment prendre en compte ces dimensions-là de potabilisation de l'eau, d'avoir une eau beaucoup plus saine pour les populations dans les pays en voie de développement.
Alors là, nous venons de faire les voies du progrès. Je vous propose de passer de l'autre côté.
Oui. Donc, ce qu'on est en train de voir devant nous, c'est une jeune fille très souriante dans une école en République démocratique du Congo. Et cette jeune fille-là a joint ce qu'on appelle la brigade de l'école qui permet de promouvoir la santé au sein de l'école. C'est dans un programme en République démocratique du Congo qu'on appelle École et Village Assaini. Et l'idée de cette stratégie, c'est en même temps rassembler toute la communauté, nettoyer tout l'environnement et aussi les écoles, les centres de santé, les lieux publics en même temps, avoir de l'eau potable, laver les mains avec du savon et de l'eau, et aussi nettoyer l'environnement dans lequel les enfants vont à l'école ou bien la communauté vit. On va beaucoup plus loin, je crois qu'il y a une photo là-bas en Sierra Leone où depuis des années ils ont appliqué l'approche assainissement total piloté par les communautés et ils ont vu que le nombre de cas de diarrhée dans ces communautés a énormément diminué et les enfants sont beaucoup plus en santé et aussi toute la communauté entière est beaucoup plus en santé, les maladies ont reculé. Et ça, c'est une approche que l'UNICEF et d'autres partenaires ont utilisée pendant longtemps, depuis 2008, l'année internationale de l'assainissement. Cette approche a permis de faire un saut qualitatif pour l'amélioration de la situation de l'assainissement. Malgré ce bond qui a été fait depuis 2008, les résultats au niveau de l'assainissement n'ont pas été ce qu'on escomptait pour atteindre les objectifs du milliard de développement.
Quel est le problème majeur justement en matière d'assainissement ?
Le point numéro un, c'est qu'il y a les barrières culturelles qui créent un problème important parce que les communautés ne continuent pas à vivre dans les conditions où elles étaient avant depuis des années. Et le changement n'a pas été opéré. Le deuxième niveau, c'est qu'on n'a pas pu trouver une approche qui permette de lever les barrières tout juste. Quand on a annoncé les objectifs du milliard de développement en 2000, il a fallu 8 à 10 ans pour que et la communauté internationale et les agents de développement puissent vraiment se réveiller et commencer à adresser ces questions-là. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est en train de faire des bons énormes sur cette question d'amélioration de l'assainissement dans beaucoup de pays. J'étais récemment au Bénin. Le Bénin a commencé cette approche il y a seulement une année, mais ils ont atteint déjà plus de 21 000 communautés qui ont atteint, comme on dit souvent dans notre jargon, fin de la défécation à l'air libre dans ces communautés, ce qui constitue un énorme progrès après une année. Donc si on avait adopté ces approches dans beaucoup de communautés, et déjà au début de la décennie, on aurait fait énormément de progrès. Et le troisième niveau, c'est que les financements n'ont pas suivi très tôt.
Est-ce que les gouvernements ont compris la nécessité de prendre ce genre de mesures ou bien est-ce qu'eux aussi ont été lents à comprendre ce qu'il fallait faire?
Ce qui a été un point positif de la décennie passée aussi, c'est la mise en place de ce qu'on appelle l'eau et l'assainissement pour tous. C'est un partenariat qui regroupe tous les gouvernements et qui rassemble aussi les ministres des Finances de beaucoup de pays et autour desquels on discute des thèmes d'ordre politique et pour la priorisation du secteur. Ça a été très difficile dans beaucoup de pays. Maintenant, les pays commencent par comprendre qu'il faut un ministère de l'eau ou un directeur général de l'eau et de l'assainissement dans le pays. Donc, la prise de conscience commence par naître, mais on va avoir vraiment les progrès dans ce domaine-là dans les 15 années qui viennent.
À remplir tout le temps, constamment, mais bientôt il n'y aura plus assez d'eau. Bientôt il n'y aura plus assez d'eau.
Le jour du lancement de cette exposition, les organisateurs ont remis des prix récompensant les travaux d'amélioration d'accès à l'eau. Parmi les trois lauréats figuraient la Canadienne Catherine Bachan et son compatriote Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et d'une organisation non gouvernementale appelée One Drop, une goutte en anglais. Au micro de Priscilla Lecomte, les deux lauréats expliquent ce qui les a motivés à s'intéresser à l'eau.
On est de l'organisation One Drop qui est basée à Montréal et qui font des projets un peu partout dans le monde. Mais on a gagné ce prix pour un projet en particulier qui était fait en Inde et qui impliquait...
Oui, c'est ça, qui impliquait 100 villages dans lesquels on a pu utiliser l'art social pour transformer les comportements puis accroître et accélérer un programme d'accès de gestion de l'eau.
Vous avez dit pendant votre discours que vous avez commencé à vous intéresser au problème de l'eau, à la question de l'eau en 2007, alors que personne ne s'y intéressait à l'époque. Pourquoi vous y êtes intéressé alors?
Ben moi, à l'époque, j'étais dans une démarche de trouver une autre cause au niveau humanitaire dans le contexte des célébrations du 25e anniversaire du Cirque du Soleil. Et puis, très rapidement, j'ai touché et j'ai regardé vers l'eau. Dans un premier temps, l'eau m'a toujours inspiré. Mais à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait une personne aux 20 secondes qui mourait de ne pas avoir accès à l'eau directement lié à la cause de l'eau. Et là, ça m'a touché. Et pour moi, ça a été suffisant pour m'engager dans la cause de l'eau. Et depuis ce temps-là, ben, on a appris beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez appris de ces villages où vous intervenez? Quelle est la situation d'abord quand vous arrivez là-bas?
En fait, notre partenaire terrain qui était Grame Vicasse, eux demandent, avant de commencer à mettre en œuvre un projet d'accès à l'eau, il faut que tous les membres de la communauté aient signé un pledge, un engagement concret. Et ils ont de la traction, en fait, dans environ entre 2 et 5 des villages où ils travaillent. Donc, nous, on a amené l'art social, donc la composante, quand on expliquait tout à l'heure, le ABC for Sustainability, Access Behavior Change Capital, on a amené la composante Behavior Change avant même de commencer les travaux d'infrastructure pour engager les communautés et pour qu'ils se mobilisent autour des enjeux de l'eau. Et avec notre programme d'art social, donc on est passé de 2 à 5 %, on est monté à 74 % d'engagement dans l'ensemble de ces villages-là. Donc, à travers l'art, on change les comportements et on peut mobiliser les communautés entières.
Dans tout projet international d'approche, que ce soit pour des puits, que ce soit pour n'importe quel projet, il y a une composante qui est fondamentale. Chaque pays ou chaque environnement ou chaque région qui est en besoin d'aide a une spécificité culturelle. Et si on ne prend pas le temps de bien la comprendre, il va être des fois très difficile d'implanter des projets durables parce que ces gens-là ont leur propre culture et n'ont pas nécessairement la même approche, la même compréhension des choses que nous, on a. Alors, c'est très, très important dans un premier geste de cette rencontre et cette reconnaissance des spécificités culturelles des endroits où on va travailler avec des projets d'eau.
D'accord. En Inde, par exemple, quel est le type de comportement sur lequel vous pouvez intervenir?
Mais en fait, le plus grand enjeu là-bas, c'était comprendre pourquoi ils ont besoin d'accès à l'eau potable. Je pense qu'ils ne saisissent pas nécessairement ce qui les rend malades. Il y a aussi le problème de défécation à l'air libre, qui est un problème important en Inde. Donc, ce qu'on fait, on a pu, d'une part, mobiliser les femmes. Donc, on sait que les femmes avaient tendance à rester à l'intérieur de leur demeure. On les a fait sortir, on les a fait se réunir au centre de la place publique à travers une murale qu'on a créée avec eux. On les a fait se réunir aussi pour un festival de films. On les a fait se réunir pour créer aussi des emblèmes visuels qui représentent non seulement l'unicité des femmes de la communauté, mais des castes aussi, qui est un problème, un enjeu important lié à l'eau, puisque les castes refusent de partager l'infrastructure. On a fait aussi des mini-films qui permettaient aux gens de transmettre les enjeux à travers leur vision, leur perspective des enjeux et de le communiquer à leur communauté. C'est beaucoup plus puissant.
En fait, il faut prendre le temps de parler leur langage, de bien comprendre leur culture et surtout respecter des choses qui doivent être respectées si on veut que les projets arrivent à terme.
Qu'est-ce que vous allez faire avec votre prix aujourd'hui?
L'intention, c'est de la ramener, en fait, dans la communauté même, donc pour le partager avec les partenaires terrains qui ont travaillé avec nous, mais surtout les villageois qui ont transformé leur vie à travers le programme One Drop.
Et puis, on va essayer d'utiliser ça comme pour aller chercher d'autres fonds avec d'autres organisations. En fait, parce que c'est aussi une reconnaissance du projet One Drop. C'est un coup d'encouragement pour toute l'équipe et puis surtout un outil pour aller chercher plus d'argent.
Alors que l'exposition s'achève, notre guide Évariste Kwasi Kommelan évoque comment certains pays essaient de trouver des solutions pour mieux gérer leur eau sur le continent africain. Il n'ignore pas pour autant certains des défis futurs liés à la disponibilité en eau et résume avec beaucoup de poésie le but de cette rétrospective.
Quand je considère l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on a beaucoup plus de problèmes. Il y a la crise du Sahel, les questions de malnutrition, il y a Ebola, il y a les pluies qui ne viennent pas, il y a toutes les questions d'insécurité. Donc tous ces éléments-là sont des facteurs. Si on ne les règle pas, il serait vraiment très difficile de penser à atteindre les objectifs de développement durable. À ça, il faut ajouter les questions primaires qui sont les questions liées à l'eau, la ressource en eau elle-même. D'autres pays ont déjà fait des plans sérieux pour adresser ces questions. Je pense par exemple au Burkina Faso, qui a un plan de gestion intégrée des ressources en eau très efficace mis en place. Le Bénin, ils ont quelque chose de très similaire, mais dans d'autres pays, il n'y en a pas du tout. Donc ces pays-là, c'est là où il faut vraiment les aider à avoir ces plans de gestion des ressources et du coup commencer par à gérer. Donc ça va prendre un peu de temps dans ces pays pour pouvoir aller à ce niveau. Les ambitions sont là, mais la mise en œuvre dans chaque pays dépendra de la volonté politique et de comment est-ce qu'on veut faire avancer la question.
On peut aller de l'autre côté. Si vous pourriez juste me faire une conclusion par rapport à cette exposition, ce que cherche à accomplir cette exposition.
Je crois que l'exposition a un but final, c'est aussi attirer l'attention des uns des autres que l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont des facteurs indissociables et très, très, très importants pour la vue de l'humanité. Et cette exposition attire l'attention de tout un chacun sur un peu comment est-ce que dans les années qui viennent, il faut mettre l'accent sur cette source qui est la vie. Et donc ça, c'est le fondement. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. Et j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai pu entendre un compteur d'eau qui fait les comptes de l'eau et qui disait à toute la foule que bien que l'eau soit source de vie, l'eau aussi peut être source de mort. Parce que quand les inondations interviennent dans des communautés, il va falloir que les populations qui sont dans cette zone-là soient déplacées le plus tôt possible. Donc, cette façon de dire, OK, on aura la rareté de la ressource qui va permettre à la population de ne pas vivre, mais aussi dans quelque part, il y aura l'abondance. Et comment est-ce qu'on peut gérer l'abondance pour mieux gérer toutes ces questions et créer un équilibre au niveau de l'écosystème. Voilà un peu, cette exposition a pu parcourir tous ces éléments-là et on s'en réjouit et qu'on a pu voir la situation du lac Tchad, par exemple, où des efforts sont faits, les communautés en Sierra Leone, où ceux qui se sont mobilisés autour des questions de santé, ou en DRC, les gens, Congo, DRC, les gens parlent un peu de système solaire ou de forage manuel qui permettent à la population de renaître, de vivre. Donc c'est un peu tous ces facteurs-là qui sont là. Donc il y a la vie, il y a la mort et il y a une balance entre les deux.
On ne change rien demain. Chacun de nous.
ces mots que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine à l'eau. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.